RNV Podcast. 8h-10h sur RNV. On va pas s'énerver.
Pour la suite de cette matinale, j'ai le plaisir d'avoir un invité. Il s'appelle Michele Paragalli. Salut.
Salut, bonjour.
Alors avec toi, on va parler musique, bien sûr, et notamment d'un album qui est sorti il y a pas longtemps, mais déjà faisons un peu le point. Qui c'est ce Michele Paragalli? J'ai l'impression que ça fait un petit moment que tu fais de la musique et que t'es gentiment spécialisé dans les cordes.
Alors ça fait pas mal d'années, effectivement. J'ai dû commencer la guitare à l'âge de 14-15 ans. Mmh. Je pense que j'ai eu mon premier groupe à 17 ans, j'en ai 48. Donc effectivement, ça fait quelques années de guitare dans les pattes. Je joue aussi du oud depuis 2006 à peu près, mais ce n'est pas un instrument que j'ai l'occasion de jouer très très régulièrement, même si j'adore. Mais voilà, comme pour tous les instruments, il faut un minimum de discipline et d'abnégation. Et le temps que j'ai, je le consacre essentiellement à la guitare. Donc j'ai plutôt commencé par la guitare électrique. Depuis pas mal d'années maintenant, je suis plutôt sur le nylon.
Même basse, occasionnellement, j'ai vu.
J'ai fait énormément de basse fretless. J'avais trouvé une très jolie basse dans un magasin qui vendait de l'occasion. Et j'avais eu le coup de cœur pour cet instrument. Et j'ai probablement rarement eu autant de contrats qu'en tant que bassiste, parce que les guitaristes, ça pousse sur les arbres. Les bassistes, il y en a un petit peu moins. Et j'étais assez polyvalent, donc j'avais beaucoup de jobs à l'époque. Après, je me suis fait une petite blessure à l'index, qui fait que maintenant, j'évite de jouer sur des instruments qui sollicitent un peu trop la musculature. Après, j'ai fait aussi un petit peu de contrebasse en big band. Ouais. Ça, je ne referai plus, parce que physiquement, c'est un petit peu trop intense, on va dire. La basse, j'en touchote encore occasionnellement, mais c'est plus pour composer des lignes de basse dans le cadre de certains projets que je le fais. Mais je ne joue plus en tant que bassiste en live.
Est-ce que pour un guitariste, la basse, ça n'a pas quelque chose d'un peu frustrant?
Moi, j'ai adoré jouer de la basse. Déjà, je jouais debout. La guitare, la plupart du temps, je joue assis. En tout cas, la guitare classique, je joue systématiquement assis. La guitare électrique, en général, debout. Ouais. Mais la basse, c'est un instrument que je joue toujours debout. Et je trouve que ça amène de la corporalité d'être debout, une relation au rythme, à la pulsation qui est un peu différente, une relation au mouvement qui est différente. Moi, je jouais beaucoup de jazz, des trucs un peu funky, et du coup je bougeais un peu et je trouve que ça a amené une relation au rythme qui était différente, et une relation au corps aussi, parce que c'est une chose dont on parle pas assez souvent. Je trouve que la musique, ça passe vraiment par le corps, c'est pas juste une activité cérébrale, et la basse pour ça, je trouvais très intéressant.
C'est vrai que à proprement parler, le son de la basse est quelque chose qui vibre bien plus, comme aussi la percussion évidemment, que ce que font les instruments plus aigus. Par contre, effectivement, on a plus l'habitude de solos de guitare, par exemple, qui sont bien plus imagés en termes de mélodie que ce que peut faire une basse, même si, en tendant l'oreille un peu correctement, on peut voir qu'un bassiste peut faire des magnifiques solos aussi. Celui, j'aurais dû dire d'ailleurs.
Alors, il y a des merveilleux bassistes qui font des solos absolument phénoménaux. J'ai jamais fait partie de cela. Moi, j'ai plutôt été un accompagnateur en tant que bassiste. Chercher le groove, chercher d'être au service de la base du morceau, plutôt que d'essayer de me mettre sur l'avant de la scène. Mais même en tant que guitariste, pas tellement dans mon tempérament. Je suis quelqu'un, je dirais pas introverti, mais j'aime jouer avec une forme de finesse et de discrétion. J'ai jamais été le guitariste lead qui explose sur le devant de la scène. J'ai aussi quelques limites techniques. Il faut que je ne sois peut-être pas le plus grand des virtuoses. Bon, je joue très bien, je ne vais pas non plus faire de la fausse modestie, mais j'ai pas ce côté flashy des guitares héros qui ont un pied sur leur tour de scène, la disto à fond, et qui envoient des triples croches à des tempos infinis.
Ça s'entend rien dans ta voix qui est très posée, que tu amènes avec douceur. Effectivement, on n'est pas devant quelqu'un qui aime exploser. J'imagine que sur scène, on va aussi ressentir ce tempérament.
En fait, j'essaye même de cultiver une forme de présence dans le silence. Et je le fais de plus en plus et de mieux en mieux, probablement. J'ai aussi la chance de jouer en ce moment avec des musiciens et des musiciennes qui ont un peu ce genre d'approche. Et ça permet de faire une musique qui respire énormément. Et à leur contact, notamment, j'ai appris aussi à faire vivre un silence. Et c'est quelque chose qui est très difficile, de jouer une note, de la laisser vivre sa vie tranquillement dans l'espace, puis s'éteindre gentiment, mais de rester présent jusqu'au bout. Ça demande une forme de concentration qui est peut-être difficile à atteindre quand on joue un répertoire plus fourni.
Prendre le temps, hein. De toute façon, c'est un peu le mal de notre société, hein. Tout va vite et on sait peut-être plus assez s'arrêter et faire les choses avec finesse et les déguster finalement.
Alors dans mon cas, j'irais presque jusqu'à dire que c'est une forme de résistance d'essayer de d'assumer. C'est pas quelque chose que je surjoue ou que j'induis volontairement. C'est juste que j'accueille ce que je suis tel que je suis et je suis comme ça. Je suis pas un performeur explosif. J'ai cherché à l'être. Et je crois même avoir souffert parfois de cette injonction à devoir performer d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'était une injonction réelle ou supposée, mais en tout cas, moi, je la percevais. Et maintenant, j'assume d'être ce que je suis et de le vivre de cette manière et de me dire, bah, est-ce que ça trouve sa place dans le monde dans lequel on vit ? J'en sais rien, mais ça, ce n'est plus ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'être juste par rapport à moi-même. Et ensuite, les gens l'accueillent de la manière dont ils souhaitent l'accueillir, mais ma responsabilité, elle s'arrête là.
Est-ce que cette douceur, c'est ce qui t'a ramené à la guitare classique ?
Je pense que ce qui m'a beaucoup amené à la guitare classique, c'est la musique brésilienne d'abord. Mm-hmm. Je suis tombé en amour face à la musique de Baden-Powell, de Jobim, de certains guitaristes brésiliens. J'ai beaucoup joué de tango aussi, donc tout le côté un peu latin qui sommeille en moi. Je pense que la guitare classique faisait vraiment écho à ça. J'ai fait un peu de musique classique. Pas de manière autodidacte, j'ai quand même pris des cours avec un professeur, mais sans avoir la vocation d'un concertiste, on va dire. Ça m'a beaucoup appris en termes de discipline de travail, de lecture, de recherche d'une certaine qualité d'exécution, et de travail sur le son et le timbre. Mais j'ai jamais performé en tant que guitariste classique. Voilà. Mais non, j'aime beaucoup la guitare classique, j'adore le nylon, j'adore le toucher, j'adore le son, j'adore le timbre. Et je trouve très épuré, mais en même temps, c'est très, très difficile. Je trouve que c'est un instrument vraiment difficile parce qu'il y a vraiment une exigence pour... Si on porte vraiment une vraie attention à la qualité du son qu'on essaye de produire, on peut vraiment aller très, très loin dans la nuance, dans la subtilité. On peut avoir un son très brillant, très claquant. On peut aller chercher des choses extrêmement douces, des phrases très, très fines, sans que ce soit des effets extérieurs qui nous aident à produire ça. Mmh. C'est uniquement nos doigts qui nous aident à produire ça. Et du coup, c'est un chantier immense que j'ai devant moi, en fait.
Est-ce que ce chantier, c'est celui sur lequel tu as travaillé, sur Fragments ?
En partie, ouais.
Ouais.
Parce que le fait de faire un album solo, c'était aussi une manière de me confronter aussi à mes limites. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne saurais probablement jamais faire. J'ai pas 8 heures par jour à consacrer à affiner certains aspects techniques non plus, donc je dois aussi accepter mes imperfections, des lacunes techniques, des choses qui font partie de mon parcours, des couleurs. J'ai une limitation physiologique à l'index gauche qui fait que je peux pas faire certaines positions typiquement, donc j'ai aussi dû apprendre à jouer avec ça, puis à travailler avec cette petite contrainte. Mais l'enjeu, c'est comment je fais de cette contrainte quelque chose de créatif. Donc ça m'a obligé à explorer d'autres accords, d'autres positions. Voilà, c'est un petit peu ce qui a donné naissance au morceau que j'ai composé au fil des mois et années que j'ai rassemblé dans cet album.
Fragment, c'est donc ta dernière sortie. C'est un... On ne sait plus si on doit dire album maintenant, si on doit dire un recueil de 8 titres, puisque finalement l'album, c'était un objet qui maintenant ne sort plus forcément. Parfois oui, parfois non. 8 titres donc à la guitare classique, tu le disais, qui ne sont donc pas tous issus de la même période.
Non, pourtant il y a une continuité d'un morceau à l'autre. Alors, je les ai intitulés très très sobrement, hein, fragment 1, fragment 2, etc. Mais parce que voilà, je me suis un peu amusé aussi avec la pochette, parce qu'il y aura quand même un support physique, il y a un vinyle qui est en production en ce moment. Mm-hmm. Et j'ai joué sur l'image d'un cyanotype que j'ai cassé en débris.
Oui, tout à fait, comme en fragments. Justement.
Voilà, des fragments. Mm-hmm. Et sur le verso de la pochette, on voit l'image originale reconstituée un peu comme un puzzle. Donc il y avait cette idée de dire que chaque morceau constitue un fragment de ce puzzle. Donc je les ai mis quand même dans un certain ordre.
Oui.
Il y a une certaine logique que je me sens pas devoir trop expliciter, mais dans les tonalités, dans les rythmes, où j'ai voulu quand même essayer de raconter une histoire, puis qu'il y ait une continuité qui le traverse, et que quand on arrive au dernier morceau, ce soit assez naturel de recommencer au premier aussi, pour donner un côté un peu cyclique. Donc voilà, j'ai aussi un peu réfléchi à ce genre de choses. Je pense que le plus vieux des morceaux, il a 2 ans à peu près.
Ok, oui, donc c'est pas sur une période trop large non plus. Comment ça se passe quand tu pars sur la création de musique ? Est-ce que tu te mets à l'ouvrage ? Est-ce que tu te laisses surprendre ? Est-ce que c'est ton quotidien qui va t'amener à certaines choses, des endroits que tu fréquentes ?
Alors moi, la composition, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile, dans le sens où, déjà, il faut s'y mettre. C'est rarement des choses qui viennent toutes seules. C'est souvent que je choisis de consacrer du temps à ça, parce que c'est une exploration un peu sans fin, c'est d'essayer un motif. Il me plaît pas, je passe au suivant, j'essaye autre chose, je m'amuse un petit peu. Mm-hmm. Et tout d'un coup, je trouve une petite idée qui me sert d'accroche. Et ensuite, j'essaye de dérouler le fil à partir de là. Mais ça prend du temps. Et j'aime beaucoup faire ça en nature. J'ai une relation à la nature qui est assez forte. Et souvent, je me dis, ah ben tiens, aujourd'hui, je vais me poser dans un endroit que j'aime bien, où il n'y a pas trop de passage. Je prends ma guitare, du papier à musique, un crayon, et j'essaye des choses. Et maintenant, j'ai une attitude très apaisée par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai pas peur de la page blanche. Si j'écris rien, c'est pas grave. Et j'accueille toutes les idées qui viennent. Je note tout. Et je fais le tri plus tard. Mmh. Ça me laisse dans un état de disponibilité à ce qui se présente à moi, qui fait que j'élimine pas a priori une idée en me disant elle est pas pertinente, elle est pas assez sophistiquée, parce que parfois on est un peu snob aussi quand on écrit, ou alors elle est trop simple, elle est trop épurée, ou elle est au contraire trop surjouée. Je garde tout, et c'est de manière assez naturelle qu'après je fais une sorte de tri et que je réassemble ces idées. Parfois j'ai des morceaux qui sortent d'eux-mêmes tout seuls, mais littéralement d'une traite, et parfois j'ai des morceaux qui sont des assemblages d'idées qui n'ont pas forcément émergé exactement au même moment.
Oui, c'était ma question, justement. Du coup, ces idées qui ont été écartées dans un premier jet, tu ne les écartes pas définitivement, tu les mets dans un tiroir, peut-être qu'elles ressortiront plus tard.
Elles traînent toujours sur un bout de papier quelque part. Ça m'arrivait, maintenant je ne le fais plus trop, mais ça m'arrivait un temps de reprendre des choses que j'avais écrites dans les années 2000-2010, de reprendre des vieux brouillons, d'examiner si tout d'un coup une idée que j'avais négligée à l'époque trouvait un nouvel écho, parce que ben on évolue, on change, et tout d'un coup une idée qu'on trouvait moyenne, tout d'un coup ah non, mais en fait finalement elle devient quelque chose. Et il y a un des morceaux, je crois que c'est le fragment numéro 7, alors c'est très très lointain comme lien, mais les deux premiers accords, on va dire, que j'utilise comme squelette de la composition viennent d'une idée très 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 ancienne que j'avais jamais exploitée. Je l'avais pas forcément écartée, mais je l'avais jamais vraiment utilisée et exploitée.
C'est vrai que finalement, même si la phrase musicale qui avait été posée à l'époque ne fonctionne pas, ou que sais-je, elle peut induire d'autres choses, évidemment, et elle peut être le point de départ de quelque chose de nouveau.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, finalement. Je travaillais à Berne avec un bassiste qui s'appelle Björn Meyer, qui est un magnifique musicien. J'ai amené quelques idées de composition et on a travaillé un passage, et moi j'étais vite dans une optique de dire oh, on laisse tomber, ça sert à rien, l'idée est pas pertinente, on passe à autre chose. Et lui m'a dit attends. Puis on a travaillé dessus, puis on est resté dessus finalement une demi-heure jusqu'à ce qu'on trouve une manière de la faire sonner. Et lui m'a dit que souvent ce qu'il fait, c'est qu'il élimine pas une idée tant qu'il a pas épuisé toutes les subtilités qui lui permettent de vraiment voir est-ce que l'idée est mauvaise ou est-ce que j'ai pas encore réussi à exploiter ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et c'était assez intéressant comme façon de travailler. Alors, ça prend du temps après. Mais l'idée, c'est-à-dire qu'une idée, elle n'est pas forcément a priori mauvaise ou bonne. C'est qu'il faut parfois juste trouver l'angle par lequel on peut la faire sonner et en tirer quelque chose. Et parfois, il y a des idées qui ne donneront jamais rien. Et puis, ce n'est pas grave, ça fait partie aussi du processus. Et s'il y a 80% de déchets, ben, l'important, c'est de conserver les 20% qui restent et d'essayer d'en faire quelque chose de bien.
Mmh. Alors, Prémont est un album solo. Est-ce que ça veut dire que tu as travaillé 100% seul dessus ?
Tout ce qui est écriture, travail sur les morceaux, ça c'est 100% solo. L'enregistrement, je l'ai fait chez moi. J'ai un problème à travailler en studio, il y a une sorte de nécessité d'être performant le jour J, et c'est une chose que j'arrive pas forcément à faire, donc là je voulais me laisser le temps d'enregistrer tranquillement. Par contre, j'ai confié le mixage à un ami qui fait aussi beaucoup de production et qui est très bon dans ça, c'est Félix Fiva, qui est un batteur de la Chaux-de-Fonds. Alors c'est jamais vraiment un travail solo, dans le sens où c'est pas moi qui ai construit la guitare sur laquelle je joue, c'est mon ami Gilbert Novelli, c'est pas moi qui ai fait le mixage. Le cyanotype, c'est-à-dire l'image que j'ai utilisée, je l'ai fait avec ma fille. La graphiste qui a fait la pochette, c'est la maman de ma fille.
Donc, joli.
Voilà, donc c'est assez cool. Et j'ai aussi perçu des soutiens financiers, que ce soit le triroman de Canton de Neuchâtel, la commune de Val-de-Rue. Donc oui, c'est solo, mais on n'est jamais complètement seul dans ce genre de travail.
La création artistique de la musique, par contre, elle est de ta main, même s'il y a eu des travaux supplémentaires derrière par Félix Fiva en termes de mixage.
Alors, la partie strictement guitaristique, j'endosse la pleine responsabilité de ce qui se passe sur cet album.
On est d'accord. On a beaucoup parlé de création avec toi, on a beaucoup parlé de finesse, de volonté de prendre le temps, de faire ça en plus en pleine nature, et bien sûr aussi de solitude quelque part, de cette solitude que tu prends peut-être pour créer. Évidemment, la musique, ça se partage aussi. Est-ce que tu es un artiste qui aime partager sur scène ou pas forcément ?
Maintenant, oui. J'ai donné énormément de concerts, mais pas toujours avec plaisir.
Ouais.
Parce que souvent, j'avais énormément la boule au ventre. J'avais peur, le trac, mais un trac presque paralysant. Mais c'est des mécanismes qui sont vraiment d'ordre psychologique, qui sont liés à justement cette sorte de nécessité de performer, de devoir être bon, de ne pas avoir droit à l'erreur. Et souvent, c'est des constructions qu'on s'impose à soi-même, ou peut-être qu'on est dans un milieu qui nous laisse imaginer qu'il n'y a que ça comme réalité, jusqu'à ce que justement, petit à petit, je découvre relativement tardivement juste le plaisir de m'amuser et de jouer. Alors, j'aime beaucoup être sur scène, plutôt en groupe, mais en solo, c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelque chose de très, très intime. Il y a très peu d'intermédiaires entre moi et les gens face à moi. Finalement, il y a juste un bout de bois et quelques cordes et mon humanité qui transparaît à travers ça. Mais je recherche pas à faire des grandes scènes. Moi, si j'ai 30 personnes heureuses, je suis extrêmement heureux. Et j'aime partager ce que j'ai envie de donner et j'aime la manière dont parfois les gens me disent comment ils l'ont accueilli. Parce que on suscite quand même quelque chose chez autrui et le cœur de ma vocation artistique, c'est quand même ça, je crois.
L'échange, le partage, et donc quelque part un peu savoir comment c'est reçu, comment c'est analysé, ressenti.
Mmh. Ouais, je pense qu'il y a énormément de relations très différentes à la musique dans le monde. Il y a des cultures dans lesquelles la musique elle a vraiment une vocation spirituelle, il y a des cultures dans lesquelles il y a vraiment cette envie de percevoir la musique comme un spectacle ou un divertissement. Je ne les hiérarchise pas, c'est juste trouver laquelle me correspond finalement. Et je pense que maintenant j'ai trouvé là où je me sens bon, là où je suis à ma place, et je ne vais pas rechercher à me mettre dans des endroits qui ont une philosophie autre que celle-ci, en fait, que celle dans laquelle moi je me sens bien.
Pour trouver des infos un peu sur ton univers, on peut passer sur les réseaux, on te trouve sur YouTube et Instagram notamment avec Michele Vargalli en un mot, donc il faut chercher peut-être sur Google si on ne sait pas trop comment s'y prendre en termes d'écriture. On te trouve aussi sur Bandcamp où on a la possibilité accessoirement de trouver ta musique, ce qui est toujours agréable également, et donc c'est aussi là qu'on trouve cet album, et je crois savoir d'ailleurs que c'est pas par hasard. C'est une décision bien réfléchie que tu as eue de mettre ta musique sur Bandcamp.
Alors tout d'abord, c'est devenu très compliqué de produire des supports physiques en ce moment, de savoir à quel point c'est pertinent de faire des CD, si c'est pour en avoir 500 qui traînent à la cave alors que plus personne n'a de lecteur CD. Donc j'ai fait une série de vinyles qui sont en pressage actuellement, qui arriveront je pense début juin. Mais je fais une série assez limitée, une trentaine d'exemplaires, et j'en referai si nécessaire. Et pour le reste, je me suis concentré sur la vente en ligne. Je voulais pas être présent sur les plateformes type, j'ai même pas envie de les nommer en fait, mais elles sont suffisamment nombreuses et connues, tout le monde les connaît. Oui. D'une part parce que la rémunération est mauvaise, d'autre part parce que certaines de ces plateformes éthiquement me dérangent en fait.
Oui, parce qu'on sait ce qui est fait avec cet argent et c'est pas toujours reluisant.
Notamment, alors je connais pas Bandcamp en long et en large, mais au moins je sais que la majorité du produit des ventes me revient, déjà. Même la grosse majorité, donc ils prennent pas énormément sur ce qu'ils me vendent. Ça m'a permis aussi de proposer un album à prix libre. Et ça, c'était important pour moi de laisser aux gens la possibilité de l'acheter pour un franc ou le télécharger gratuitement, ou de me lâcher 50 francs s'ils ont envie de soutenir mon travail, en fonction de leurs besoins, mais aussi en fonction de leurs possibilités.
Et c'est tout à ton honneur, parce que c'est vrai qu'effectivement la musique c'est quelque chose qui est accessible à tous, ou en tout cas qui devrait l'être, mais c'est vrai que parfois les finances peuvent freiner, la possibilité de participer à un concert, la possibilité d'acheter de la musique, et de soutenir aussi les artistes qu'on a envie de soutenir, et effectivement ce prix libre sur Bandcamp permet les deux.
Ben, c'est exactement ça, c'est une façon d'essayer de concilier le fait que j'ai envie que la culture soit accessible au plus de personnes possible sans que l'aspect social soit un frein. Et d'un autre côté, j'attribue quand même une certaine valeur à mon travail. J'ai pas envie de travailler bénévolement non plus, donc comment concilier ces deux aspects, c'est pas évident. Et j'ai trouvé que la mise à disposition à prix libre, c'était quelque chose qui me semblait concilier un peu ces deux aspects en tout cas.
L'album s'appelle Fragments. Merci Michele. On va écouter le premier, du coup, pour donner envie à nos auditeurs d'écouter les autres morceaux, puisqu'on aura compris que l'idée, c'est quand même de les écouter dans la ligne que tu as choisie, dans l'ordre, donc, sur cet album. Et puis, on espère te retrouver bientôt sur scène.
Alors, le 6 juin et le 13 juin à Neuchâtel, si jamais.
Parfait. Ce sera où à Neuchâtel ?
Au Théâtre de l'Acte 2 à Peseux le 13 juin et au Salon 29 le 6 juin.
Parfait, on annoncera aussi ces concerts le moment venu. À bientôt.
Merci.
www.radionv.ch.